www.libradio.org www.libradio.org www.libradio.org.
Nous sommes le 14 juin ici au HUG à Genève, précisément au département de médecine génétique et du développement de la faculté de médecine, en compagnie de la médecin adjointe agrégée au service de génétique, spécialiste de l'épigénétique, doctoresse Giacobino. Bonjour et merci de nous recevoir.
Bonjour.
Qu'est-ce donc que l'épigénétique ?
Alors l'épigénétique, c'est une sorte de partie un peu défroquée de la génétique qui est née il y a une dizaine d'années, même si on y pensait un peu avant, mais vraiment les évidences moléculaires ont été décrites il y a une dizaine d'années. C'est-à-dire qu'en plus du génome, qui est vraiment la trame, qui est notre ADN, qui est le code génétique, un peu comme le code barre qui définit un produit, ça serait le génome. Et l'épigénome, c'est la manière dont ce code barre est lu, c'est-à-dire la manière dont chacune de ces séquences de gènes va fonctionner comme un commutateur d'intensité. Est-ce que c'est fort, est-ce que c'est pas fort, ou est-ce que c'est allumé, éteint? Et c'est toute cette manière de décliner le génome en ça marche beaucoup, ça marche moins pour chacun des gènes. Donc ça, c'est l'épigénétique.
Si on voulait faire une analogie, pourrait-on dire que la génétique, c'est l'inné et l'épigénétique serait l'acquis ?
Voilà, c'est l'acquis, mais qui est forcément sur une base d'inné. Il faut l'un pour qu'il y ait l'autre.
D'accord, et ça va toujours dans ce sens-là. Il faut qu'il y ait du génome pour que l'épigénétique ensuite procède.
Exactement, et l'épigénétique, ça concerne les mammifères, mais aussi les plantes, toutes sortes d'organismes.
Et c'est une science relativement récente, ou depuis quand est-ce qu'on s'y est intéressé pour de vrai?
Alors, Lamarck, il y a bien longtemps, avait fait l'hypothèse, à peu près en même temps que Darwin, en disant « d'accord, il y a l'inné, mais il y a aussi l'acquis ». C'était son fameux exemple des girafes qui allongent leur cou pour pouvoir accéder aux feuilles des arbres. Ça avait été complètement réfuté à l'époque. C'est resté en bruit de fond, un peu avec des illuminés qui disaient « mais il y a quand même quelque chose d'acquis qui peut s'inscrire dans le génome ». Et puis vraiment, scientifiquement, je dirais que c'est il y a une 10-15 ans qu'on a eu la trace, et vraiment la manière de mesurer ça, l'épigénétique.
Alors on peut dire que ça, effectivement, on s'intéresse là aux fonctions ou dysfonctions ou absence de fonctions des gènes mis en œuvre par les cellules.
Exactement. À la base, c'est un processus qui est bénéfique puisque le génome est là, et le fait de pouvoir changer la manière dont les gènes fonctionnent, c'est très bénéfique. Si il y a un changement climatique majeur, il y a une petite partie d'adaptation qui va pouvoir se faire, simplement avec le tuning des gènes en modulant la manière dont ils vont fonctionner. Donc ça, pour l'évolution, c'est génial à relativement court, moyen terme. Par contre, ça joue pas sur des échelles de temps de millénaires, parce qu'il faudrait que ça s'inscrive définitivement dans le génome.
Parce que c'est quelque chose qui est effectivement en constante évolution ou involution d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on peut revenir dessus.
Exactement, c'est sa caractéristique, c'est que c'est pas définitif, ça va et ça vient. Et un embryon, par exemple, pendant son développement dans le ventre de la mère, il va utiliser les modifications épigénétiques pour fabriquer, à partir de ces cellules qui au départ peuvent tout faire, il va fabriquer du foie, des ongles, des cheveux et tout, simplement avec ces modifications épigénétiques. Donc c'est quand même très puissant. Mmh. Et puis après, il peut revenir à une sorte de tuning de base qui est le fonctionnement.
Mmh. Et alors, à échelle humaine, en tout cas du point de vue de l'épigénétique, a-t-on d'ores et déjà observé des changements majeurs, des variations importantes ?
Oui, alors c'est un peu ce que j'étudie, c'est de voir selon les environnements dans lesquels les individus sont plongés, s'il y a des choses qu'on peut voir au niveau de la modification du fonctionnement de leur gène. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment, on peut prendre de l'ADN d'un individu et on peut aller mesurer ces modifications épigénétiques dans l'environnement A, dans l'environnement B, etc. Vous avez peut-être, c'est une parenthèse, mais vu, il y a une jolie étude qui est parue de la NASA qui a envoyé, il y a deux frères jumeaux astronautes, il y en a un qui est parti presque une année sur la Station Spatiale Internationale, l'autre qui est resté sur Terre. Comme ils ont un génome identique, ils se sont dit, tiens, on va voir l'effet de l'environnement spatial sur le génome, et ils ont fait des mesures épigénétiques sur le jumeau qui a passé un an au-dessus de la Terre. Donc c'est ce genre d'environnement, ils ont trouvé plein de modifications.
Voilà, donc là, il y avait plein de modifications. Ouais. Est-ce qu'on sait les prévoir ou est-ce qu'on en est juste à l'observation et au recensement de ces
changements ? Alors, on commence à savoir les prévoir ou à savoir ce qui peut modifier. Il y a des choses aussi diverses que la pollution, les traumatismes psychologiques à grande échelle, l'alimentation, mais toujours quand il y a une exposition assez importante. Les choses subtiles et mélangées, on ne sait pas très bien les mesurer parce qu'on ne sait pas encore discerner quoi peut causer quoi. Donc ça ne va pas encore pour les mélanges, ça va pour les choses un peu séparées du bruit de fond ambiant.
Alors justement, nous sommes là pour parler des perturbateurs endocriniens sur lesquels on va arriver sous peu. Mais je voulais encore citer une petite information que j'ai eue et vous la soumettre. Alors en toxicologie, on admet que les effets d'un toxique, peuvent suivre deux modèles. Un modèle dose dépendant linéaire où les effets sont fonction de la dose, ou un modèle tout ou rien où les effets se manifestent au-delà d'un seuil. Qu'en est-il de l'épigénétique ? Effectivement, est-ce que c'est l'accumulation de produits que l'on ne peut pas sécréter ou expulser par la suite qui amène à un changement, ou est-ce un seuil ?
Alors on a l'impression, c'est une bonne question, des expériences qu'on fait chez la souris, je les mentionne parce que finalement c'est le modèle le plus simple pour exposer une souris à une dose, et comme on utilise des souris qui ont le même fond génétique, on sait qu'il n'y aura pas cette variable-là. Et en essayant au un par un, c'est quelque chose qu'on avait fait avec le bisphénol par exemple, on voit qu'il y a quand même un seuil, c'est-à-dire qu'il faut une certaine quantité pour obtenir une perturbation épigénétique. Par contre, entre la perturbation et les manifestations pathologiques, on n'est pas tout à fait au clair non plus. Il semble y avoir un seuil, c'est-à-dire que l'organisme tolère un peu de perturbation sans être malade ou affecté, mais que par contre, quand on augmentait la dose, on voyait qu'à un moment, il y avait non seulement l'épigénétique, l'intensité de la modification, mais l'intensité de ce que va manifester la souris.
Bien sûr. Et alors, également, ces toxiques, pourrait-on dire, eh bien, peuvent-ils être... comment sont-ils traités dans le corps ? Est-ce qu'ils sont accumulés ? Est-ce qu'on arrive à les rejeter d'une certaine manière ? Ou à les neutraliser ?
Les perturbateurs endocriniens, par exemple. Alors, eux, ils vont agir un peu comme les hormones, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser la manière d'agir des hormones en se liant aux mêmes récepteurs, en se liant aux mêmes protéines de transport dans le sang. Donc, un peu sournoisement, en fait, ils vont utiliser tout ce que l'organisme a en se faisant passer pour. Et du coup, ils vont être traités comme une hormone avec une dégradation qui va dépendre du produit. C'est-à-dire que des fois, c'est des heures, des fois, c'est quelques dizaines d'heures, et certains vont être plus permanents que d'autres, sans que ça reste pour toujours. Mais le problème chez l'homme, c'est que l'exposition ne cesse pas. Ouais. Donc on peut imaginer que notre organisme est finalement... même s'il dégrade, est soumis de manière constante à ce type de stimulation un peu sournoise, en plus du reste.
Alors voilà, on voit que c'est effectivement sournois, c'est masqué, oui. Et que c'est, il y a ce principe d'ubiquité, c'est-à-dire que lorsque l'on y est soumis à ces perturbateurs, eh bien on y est souvent soumis longtemps, parce qu'on ne les connaît pas, au bout du compte, en tout cas.
Exactement, et c'est presque cocasse, parce que, pour faire le design de ces expériences, où il fallait des souris, les exposer à différents types de perturbateurs, etc., on avait proposé un protocole au vétérinaire cantonal. Il y a toujours un contrôle vétérinaire sur ce qu'on va faire aux animaux. Et puis l'idée, c'était de faire avec phtalate et sans phtalate. Et gentiment, on nous a répondu, vous êtes gentil, mais sans phtalate, c'est pas possible, parce que dans l'animalerie, dans les cages, dans les tuyaux qui apportent l'eau, dans les emballages des croquettes alimentaires, et c'est la même chose chez l'homme, on peut plus faire sans. Donc c'est illusoire de se dire, on est avec ou on est sans. On est un peu avec ou beaucoup avec.
Alors vous venez de dire, on ne peut plus faire sans. Ça, c'est important. Donc
même du fait de sa propre volonté, en vivant le mieux qu'on peut, c'est pas possible.
Alors, il faut s'en protéger. J'imagine que c'est ça, la solution.
Voilà. En tout cas, d'abord, comprendre comment ça marche. Mm-hmm. Ensuite, le dire. Et ensuite, voir ce qui est acceptable en termes de santé comme niveau d'exposition.
Très bien. Alors, j'imagine que parmi vos collègues, vos pairs, il y a des endocrinologues, puisqu'effectivement, on parle de perturbateurs endocriniens. Alors, l'endocrinologue, c'est le spécialiste des hormones et des sécrétions. Pour résumer un petit peu la situation, est-ce avec ce corps de métier que vous travaillez en particulier ?
Alors, chez les souris, non, parce que nous, on va s'attacher simplement à l'exposition et aux manifestations cliniques. Donc, quelque part, on court-circuite un petit peu les perturbations hormonales, bien qu'on sache que c'est par là que ça va passer. Donc, œstrogène, testostérone, ces substances, elles vont mimer, notamment pour la reproduction et pour les caractéristiques sexuelles. C'est ça qu'on sous-entend. Mais chez la souris, on va pas les mesurer. C'est des choses qu'on fera plus tard, qu'on en parlera peut-être chez les hommes, quand on... l'étape 2 de nos expériences.
Très bien. Alors justement, qui sont ces perturbateurs endocriniens, et comment agissent-ils ?
Alors, c'est des substances, comme vous l'avez dit, qui sont présentes dans tout ce qu'on utilise, que ça soit dans des stylobies, des vernis à ongles, des produits de nettoyage, le plastique des chaises, les emballages alimentaires. C'est vraiment impossible de faire sans, et il y en a partout, y compris dans les jouets, etc.
Mmh. Et alors, sur quoi impactent-ils le plus une fois qu'ils sont assimilés par le corps ?
Alors, c'est sur tous les systèmes endocriniens, et en particulier... Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas touchés, mais on va utiliser les plus mesurables. Et nous, ce qu'on utilise, c'est le système reproducteur, la différenciation sexuelle et la fertilité, un peu comme effet sentinelle de quelque chose qui se passe mal. C'est un peu trivial, mais chez l'homme, une mesure de la fertilité en mesurant la concentration de spermatozoïdes, c'est une manière relativement facile de faire le lien entre on expose à quelque chose de toxique et on mesure en nombre de cellules ce qui ne va pas. Mais le problème, c'est que là derrière, il y a aussi les questions de troubles métaboliques, diabète, obésité, il y a la thyroïde, il y a plein d'autres systèmes qui peuvent être perturbés aussi.
Une petite question qui est un petit peu hors sujet, mais voilà. Concernant les radiations, est-ce qu'elles ont un impact ? Peut-on parler pour les radiations, là également, de perturbateurs endocriniens ?
Les radiations, je dirais plus qu'elles agissent sur notre génome en général et que là, elles vont aller casser, entre guillemets, un peu tout azimut. Donc c'est un mécanisme différent et beaucoup plus au hasard de ce qui va être touché.
Je vous questionnais de la sorte parce que il m'a semblé voir que sur le terrain de Pripyat, hein, la ville qui jouxte...
Tchernobyl.
Merci. La ville qui jouxte Tchernobyl, eh bien, la nature a repris ses droits et des espèces ont été observées qui ont muté d'une certaine manière.
Oui. Alors, elles, le problème, c'est qu'elles ont vraiment muté sans réversibilité, c'est que leur génome est impacté et là, c'est un aller sans retour. Donc, on peut presque se dire que c'est plus grave parce que leur descendance est impactée.
Alors, revenons-en aux perturbateurs endocriniens, tel le phtalate qui est le sujet de cette étude.
Voilà, tout à fait, qui est un parmi d'autres dans lequel on est immergé. Donc, ça nous intéressait vraiment de voir en pratique, de quantifier les perturbations épigénétiques liées à cette exposition, vraiment de manière rigoureuse.
Ouais. Qu'est-ce donc que les phtalates ?
Alors, les phtalates, c'est quelque chose, une substance qui est utilisée dans les composés plastiques et qui permet de polymériser, donc de donner une bonne sorte d'adhérence, en même temps de souplesse au plastique qui est produit à des quantités, c'est le PVC, hein, c'est produit à des quantités pharaoniques sur la Terre. De nouveau, c'est ubiquitaire, on ne peut pas s'en débarrasser. Et puis en même temps, c'est un composé qu'on peut manipuler dans un laboratoire avec quelques précautions, mais on peut avoir du concentré de phtalate.
Ce qui rend un peu plus facile les manipulations.
Voilà, exactement. Il n'y a pas besoin de le donner par un masque à des souris. C'est quelque chose qu'on peut donner par la bouche, comme nous, on en absorbe par la peau et aussi par la bouche. Donc, ça entre dans l'organisme, ça diffuse et on peut en mesurer les effets.
Est-ce que là, du coup, pour en revenir à la question de vos pères, est-ce que l'épidémiologie fait partie, du coup, peut faire partie, puisqu'on le verra, ça touche, on a des contaminations in utero qui ont été observées, et l'épigénétique, justement, eh bien, considère ce problème d'héritage, de succession.
Tout à fait. Alors, l'épidémiologie, c'est vraiment comme le drapeau rouge qui s'agite, c'est-à-dire c'est ce qui nous fait dire, tiens, il y a tel problème, et on en est tous conscients, hein, on l'entend des fois, tiens, il y a tel problème de santé dans le monde, c'est bizarre, ça augmente depuis quelques dizaines d'années, le cancer testiculaire, tel autre problème de santé. Et ça, pour moi, c'est un signal de me dire, tiens, ça augmente, mais c'est dans les pays industrialisés, mais c'est dans certaines régions. Donc qu'est-ce qu'il y a là de plus spécifique? Et ça permet de refaire une hypothèse à l'envers, finalement, de se saisir d'un problème de santé publique et de se dire, ben zut, là, il y a eu quelque chose, comme on pourrait se dire pour les bébés sans bras, hein, on se dit, mais là, c'est quand même bizarre, des choses qui se passent dans une même région, est-ce qu'il y a un facteur environnemental? Donc, tout à fait, c'est indispensable.
Donc, voilà, on parle de caractères qui procèdent d'un héritage. Alors, la progestérone, l'œstrogène, la testostérone, nos organes génitaux, ils baignent d'une certaine manière, notre production en dépend. Est-ce que c'est parce que c'est plus sensible qu'on voit souvent apparaître là et que c'est là où on voit les signaux d'alerte?
Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est des mécanismes très bien réglés. Donc, on peut se dire le cycle menstruel d'une femme, l'âge de la puberté, l'infertilité, c'est des choses d'abord qui compte beaucoup, non seulement pour l'aspect des individus, hein, quand il y a des variations du développement sexuel, tout à coup, la population est beaucoup plus alertée que s'il y avait des malformations d'une oreille, il y a quelque chose de plus sensible, de manière sociétaire, entre guillemets. Oui, c'est des systèmes sensibles aux perturbations, et vu qu'on utilise des perturbateurs endocriniens, c'est un moyen de tracer vraiment bien les choses qui se passent.
Alors voilà, venons-en à cette étude. Cette étude nous dit que nous sommes inégaux face à l'exposition aux perturbateurs. Alors pourquoi cette inégalité et dans quelle mesure?
Alors, je vous décris juste l'étude parce que c'est relativement simple. On prend des souris de deux fonds génétiques différents, donc comme si on prenait des individus différents. Simplement, on prend vous et moi. Peut-être deux hommes ou deux femmes, c'est un petit peu plus simple du point de vue hormonal et des perturbations. Et puis on se dit, on va exposer ces souris à une certaine dose de phtalates. Donc on a le modèle génétique A, le modèle génétique B, on met la même dose de phtalates, et puis on prend aussi des souris contrôle, des souris exposées à rien du tout, mais on a vu que ça n'existait pas, donc à un minimum de phtalates A et B. Et puis on regarde ce qui se passe. Ce qu'on fait, c'est qu'on expose pendant la grossesse. Donc il y a des souris gestantes, elles ont in utero un embryon, on fait ça de 8e au 18e jour de la grossesse, ça serait à peu près la fin du premier trimestre chez la femme. Et puis on observe, pas seulement au niveau génétique et épigénétique, mais on regarde ce qui se passe. Et ce qu'on a vu, c'est que pour cette même dose de phtalate, la souris A se portait comme un charme, ceux qui étaient issus des grossesses, hein, et les femelles et les bébés. Par contre, la souris B, il y avait un gros impact au niveau de la reproduction, des testicules et des anomalies dans les testicules pour les souris somales. On s'est dit, tiens, il y a vraiment quelque chose de spectaculaire qui est observable, des choses qu'on voit au microscope, les testicules sont sans dessus-dessous, il peut y avoir des malformations urogénitales, qu'est-ce qui se passe? Pour ça, on est retourné d'abord à l'épigénétique en se disant, on va voir si ces gènes ils ont été modulés de manière différente. Donc en se disant, via les hormones, il y a quelque chose qui a dû être perturbé. Et on trouve qu'effectivement, dans la souris B, qui a tous ces problèmes, les gènes, ils sont comme s'il y avait un tuning au maximum. Ils fonctionnent plus de la même manière. Il y en a qui sont complètement à fond, d'autres qui sont éteints. La souris A, rien du tout. Tout est comme chez la souris contrôle qui n'a pas été exposée. On s'est dit, mais c'est bizarre, c'était une même dose, il y a quelque chose d'épigénétique. Qu'est-ce qu'elles ont comme autre différence? Et on s'est dit, mais finalement, est-ce que ça ne serait pas le fond génétique? Donc on a pris la séquence ADN complète de la souris A, la complète de la souris B, et on est allé chercher dans leur génome s'il n'y avait pas des petites différences. Effectivement, il y en avait, et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'une des différences, c'était des sites de liaison aux récepteurs hormonaux. Donc, en fait, les phtalates profitent de la différence génétique qui a créé des sites hormonaux différents qui ressemblent à ceux des œstrogènes et vont aller se précipiter, entre guillemets, là-dessus, et du coup, créer des problèmes en changeant le tuning des gènes. Donc on a pu faire toute l'histoire, finalement, aller des phtalates aux récepteurs hormonaux et à leur séquence ADN en se disant, mais voilà, la question que ça soulève, c'est, et chez l'homme?
Oui, absolument. Alors justement, et chez l'homme, qu'en est-il? Est-ce qu'on peut imaginer que...
Alors à mon avis, c'est clair, et on voit épidémiologiquement qu'il y a des lieux, qu'il y a des groupes de population, qu'on n'est pas égaux devant certains problèmes. Genève, il y a une très grosse incidence de cancer du sein chez la femme jeune. On ne sait pas d'où ça vient, on n'a pas l'impression d'avoir compris d'où ça vient. Il y a d'autres pays où il y a d'autres types de problèmes, plus dans certains groupes de population. On a envie de se dire, mais il doit y avoir un truc génétique là derrière qui rend certains plus vulnérables que d'autres. D'où l'idée, en tout cas mon idée, c'est que de mettre une norme pour certains composés, de dire, ben voilà, on va mettre le seuil d'utilisation du bisphénol ou de l'utilisation de tel composé à telle dose, c'est bien pour une partie de la population, oui. Mais il y en a certains qui vont quand même, entre guillemets, trinquer, c'est-à-dire faire les frais de leur vulnérabilité à laquelle ils peuvent rien parce que c'est génétique.
Et cette vulnérabilité, est-ce le fruit d'une certaine manière du hasard? Ou y a-t-il là également, pourquoi pas, dans un futur possible, une adaptabilité également des corps qui pourraient rendre comment dire, plus présente cette invulnérabilité chez une
grande partie de la population? C'est une bonne question. Est-ce que il faudrait, mais alors j'imagine qu'il faudrait effectivement, comme c'est génétique, il faudrait alors des dizaines, des centaines de générations. Alors c'est quelque chose qui est observé dans certaines rivières où les poissons sont malheureusement exposés à des tas de cochonneries. Et ils ont fini par ne survivre que ceux qui supportaient l'environnement toxique dans lequel ils étaient plongés. Donc ça veut dire que oui, mais il y aurait beaucoup de...
C'est la pyrrhus, quoi.
Voilà, exactement. On brûle tout et on garde ceux qui ont résisté.
Mmh. Est-ce à dire que donc, les personnes vulnérables... C'est-à-dire qu'il est impossible d'importer cette invulnérabilité chez des personnes vulnérables par je ne sais quel mécanisme scientifique?
Alors, il faudrait des manipulations génétiques compliquées chez les embryons ou chez les parents pour ne produire que des enfants résistants. À mon avis, il vaudrait mieux agir sur ce à quoi on est exposé, se dire qu'on se débarrasse un peu de cochonnerie.
Mais alors, cette immunité, vous l'avez dit, d'où provient-elle?
Elle est génétique, elle est constitutive et on n'y peut rien.
Voilà, c'est ça. Donc
on est... Et on ne sait pas à l'avance aussi. C'est-à-dire qu'entre deux personnes, on ne sait pas à quoi vous serez peut-être plus résistant aux phtalates, mais plus sensible à la dioxine. Et finalement, il faudrait presque faire de la toxicologie personnalisée ou se dire, par principe de précaution, on se débarrasse, qui me semblerait plus sage, d'un maximum de choses. Et à partir de là, on voit déjà épidémiologiquement comment les choses s'améliorent et on en tire les leçons.
Effectivement. Donc, une des solutions, enfin en tout cas la solution qui apparaît comme la plus concrète et la plus possible, c'est de s'éloigner de cette exposition.
Voilà. Une fois qu'on a compris, de se dire la souris est pas très loin de l'homme génétiquement, c'est quand même un organisme qui nous ressemble beaucoup, hein. Et donc qu'on peut quand même plus ou moins extrapoler, même si certains vont nous dire « oui, mais c'est chez la souris, chez l'homme, c'est pas du tout la même chose, etc. » On peut d'une certaine manière extrapoler et se dire « là, c'est quand même un signal d'alarme. »
Y a-t-il d'autres axes potentiels imaginables dans le futur pour se protéger d'une certaine manière? Et là, je voulais refaire une analogie avec la radioactivité, le nucléaire. Typiquement, voilà, on sait que la glande thyroïde, on peut la saturer pour empêcher qu'elle soit touchée lors d'expositions graves à des sites irradiants. Est-ce que d'une certaine manière, voilà, est-ce que vous imaginez que des... Quelle piste pouvez-vous imaginer dans l'avenir pour arriver à se protéger? Parce qu'on l'a dit, ce caractère d'ubiquité, eh bien, on est toutes et tous victimes de...
Oui, alors se protéger médicalement ou se protéger par des stratégies, à part la manipulation, je vois pas tellement. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de déjà aller faire des mesures chez les individus, chez les hommes exposés, par exemple, professionnellement à certaines substances et de se dire, par exemple, on va aller dans l'industrie du plastique, se dire, mais il doit y avoir des personnes qui quotidiennement sont exposées à des doses importantes, et essayer de voir s'il y a des moyens d'éviter le contact, l'inhalation, comment est-ce qu'on peut protéger déjà les plus exposés.
À l'extrémité, on pourrait presque parler d'eugénisme de la nature, puisqu'elle-même pourrait finalement se débarrasser des spécimens qui ne sont pas protégés, dont on ne sait pas pourquoi elles sont plus vulnérables.
Ou d'eugénisme de l'humain envers lui-même,
également,
à mesure où c'est pas la nature elle-même,
c'est vrai.
Mais c'est des cochonneries qu'on se déverse les uns sur les autres. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu sélectionnant là-dedans.
C'est ça. Ouais. Alors, je vous cite, hein, nous n'avons à l'heure actuelle aucun moyen de savoir dans quelle mesure nous sommes individuellement ou en termes de population, génétiquement susceptibles ou non, à ces perturbations épigénétiques. Nous voulons avoir une idée de la proportion de personnes vulnérables à chaque produit. En termes normatifs, la dimension épidémiologique devrait aussi être prise en compte, ainsi que les possibles effets transgénérationnels. On l'a dit, ça c'est extrêmement important. En effet, si 95% de la population est vulnérable ou si seulement 5% le sont, la question pourrait se poser différemment. De plus, la dimension régionale et ethnique devrait peut-être être prise en compte. Alors la dimension régionale et ethnique, effectivement, cela influe.
Voilà, se dire que si on vit à côté, on sait qu'il y a un produit d'incinération, la dioxine qui agit comme un perturbateur endocrinien. On se souvient de quelques catastrophes, il y avait Seveso en Italie, avec des conséquences encore actuelles, et puis un biais dans la natalité. Alors c'est la journée des femmes aujourd'hui, mais il y avait eu un changement du ratio filles-garçons des naissances. On observe toutes sortes de conséquences sur la reproduction. Donc déjà de se rendre compte régionalement si certaines personnes qui vivent à côté, vous l'avez dit, par exemple Tchernobyl, ça c'est pour la radioactivité, mais d'autres sources de contaminants pourraient être protégées et pourraient manifester plus de maladies. Donc les agriculteurs, on y pense aussi, dans les pesticides, il y a plein de perturbateurs endocriniens, pourraient être mieux protégés. Et puis ethnique, alors ça veut dire qu'on a des différences génétiques individuelles, mais aussi entre les groupes de population à travers le monde, et que peut-être certains groupes ethniques sont plus vulnérables ou plus résistants. Et de se dire à exposition égale, c'est eux qu'il faudrait protéger plus que le reste de la population. Ça permettrait aussi, en termes de santé publique, d'adapter ce qu'on peut proposer.
Bien sûr. Et me semble-t-il que certaines populations, par exemple, sont plus sensibles aux molécules d'alcool.
Oui, c'est juste, tout à fait. Alors ça, c'est les personnes asiatiques qui font des réactions excessives à l'alcool.
Donc ça, c'est un exemple qui peut illustrer effectivement le fait qu'on est...
Voilà, qu'on n'y peut rien et
qu'on
est né comme ça.
Y a-t-il des alertes que l'on peut observer chez des organismes qui sont beaucoup plus fragiles et qui pourraient nous dire, qui pourraient vous alerter, vous, les scientifiques, les chercheuses et les chercheurs, en disant, voilà, une fougère, par exemple, on sait qu'elle va a priori beaucoup plus vite réagir, et donc on va s'inquiéter si ces signes convergents apparaissent.
Alors l'histoire des alligators du Mississippi qui fait un peu rire les gens, c'est-à-dire que la taille du pénis des alligators du Mississippi s'est mise à raccourcir au fil des générations. On s'est dit, ok, sauf que c'est devenu tel qu'il n'arrive plus à se reproduire et que donc il y a des conséquences écologiques en termes d'espèce, et qu'une espèce peut être vouée à la disparition du fait de la pollution qui impacte son système reproducteur via ses hormones et que ça a des conséquences sur toute l'espèce. Donc oui, il y a des signaux d'alarme comme ça dans l'écologie. Il y a différentes espèces sur lesquelles il a été démontré qu'il y avait des problèmes. Aussi pour la migration des oiseaux, on s'est rendu compte qu'il y avait des oiseaux qui migraient plus correctement, qui avaient plus la boussole qui était ajustée pour migrer au bon endroit. Donc ces choses-là doivent quand même nous faire sentir qu'il y a des perturbations et nous répercuter la balle. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et puis qu'est-ce qui se passe?
Oui, parce qu'on n'a pas encore la mesure des changements qui pourraient être consécutifs, puisqu'on sait
on a l'observation et au final,
exactement.
Et sans avoir la cascade.
On peut dire que sans les alligators, et bien peut-être que d'autres animaux qui sont normalement dont ils sont les prédateurs pourraient pulluler avec des conséquences incroyables. Dans le futur.
Voilà, et si vous dites à Monsieur Lambda que la taille de son pénis pourrait rétrécir, peut-être qu'il sera plus sensibilisé qu'à l'histoire des alligators.
On l'espère. Quel est le rôle de la technologie et des avancées technologiques là-dedans? Je pense à ça en termes de technologie, effectivement, sur des appareillages, mais beaucoup sur... parce que j'avais lu dans le magazine Pulsion, le magazine des HUG, un professeur dont le nom m'échappe maintenant, se féliciter par exemple du Big Data, qui permettait de collecter beaucoup plus facilement des informations beaucoup plus pertinentes pour des études d'épidémiologie notamment.
C'est vrai, alors pour l'épidémiologie et puis pour nous, pour la génétique, le fait de pouvoir séquencer, d'utiliser des machines qui peuvent décoder l'ADN en quelques heures ou quelques dizaines d'heures, de pouvoir lire les marques épigénétiques. Donc tout ça, c'est vrai. Et puis il faut des programmes là derrière qui permettent d'assembler, de comparer à d'autres pays qui auraient des publications du même type, quel type de modification. Donc il y a des bases de données qui permettent de recenser tout ce qui a été mesuré. C'est énorme. Et malheureusement, c'est aussi des questions de coûts. C'est-à-dire qu'on est limité aussi par l'argent, par qui finance ce type de projet, quels sont les enjeux pour lesquels ils financent ou les raisons. Donc il y a beaucoup de choses là derrière.
Oui, puis c'est effectivement un travail qui a l'air titanesque à produire au travers des générations. À quoi faut-il s'attendre alors pour ces prochaines années? Parce qu'effectivement, on observe que ces perturbateurs, eh bien, eux aussi pullulent. On a du mal à se dire qu'on pourra... Donc on a déjà évoqué le caractère de l'ubiquité de ces produits. Peut-on imaginer à terme même l'extinction de certaines espèces? On parle de la sixième grande extinction pour toute une série d'animaux. Qu'en est-il de l'humain selon vous? À quoi faut-il s'attendre pour notre espèce?
Alors, il faut s'attendre à bien que le confort augmente, les soins s'améliorent, que la longévité continue à augmenter. Je pense qu'il faut s'attendre quand même à l'émergence de toutes sortes de problèmes de santé qu'on va voir apparaître et dont on va voir l'augmentation. Et que là, il faudra se dire, mais c'est pas seulement ce à quoi on est exposé, c'est ce à quoi nos ancêtres ont été exposés, puisqu'il y a un aspect transgénérationnel. Et je pense qu'on va avoir une sorte d'effet rebond et qu'on va prendre conscience d'un certain nombre de problématiques qui ont touché l'humanité ou l'homme, mais dans une grande proportion de l'humanité, et devoir agir là-dessus en modifiant l'environnement, ce qu'on a commencé à faire avec les emballages, avec différentes mesures, mais sans doute, comme pour le climat, pas suffisamment. Donc je pense qu'on n'a pas encore payé le prix de tout ce qu'on a mal fait.
Donc, même en allant le plus vite possible, on a un facteur d'inertie qui
exactement
conduit...
et de choses auxquelles on a peut-être soi-même été exposé comme fœtus dans le ventre de nos mères, et on n'a pas encore développé la maladie chronique ou la maladie qui apparaîtra plus tard.
Parce que ça, on ne l'a pas dit, mais effectivement, il s'agit de même plusieurs décennies d'années pour que les stigmates apparaissent.
Exactement.
Alors, notre descendance, pensez-vous qu'elle pourra nous reprocher certains usages que l'on a aujourd'hui, ou peut-être l'incurie?
Oui, c'est presque un problème. C'est un problème intéressant de se dire, est-ce qu'on pourra un jour faire un procès à ses ancêtres en disant, mais pourquoi avez-vous été exposé ou fait telle ou telle chose? Vous étiez agriculteur, vous utilisiez des pesticides, vous auriez dû, oui, mais on ne le savait pas, et des questions morales assez intéressantes. Je ne pense pas qu'on pourra le reprocher, mais par contre, on pourra se dire, est-ce que quelqu'un, quelque part, savait et n'a rien fait? C'est plus ça.
Alors, de votre point de vue, docteur Giacobino, donc on le rappelle, vous êtes chercheuse en médecine génétique et du développement. Alors, de votre point de vue, quelles sont vos aspirations? Et selon vous, voilà, est-ce que à l'aune du XXIe siècle, eh bien, nous pourrions arriver à quelque chose de majeur, au-delà de ces études qui sont un petit peu alarmantes quand même?
Oui, tout à fait. Mon espoir, c'est que grâce à ce type d'études, on arrive à sensibiliser la population et puis à faire dévier cette idée que la même norme va pour tout le monde, que ça soit en Europe, dans le monde, d'accord, on élimine tel ou tel produit. C'est de se dire, on va jouer plus fin, et on parle beaucoup de la médecine personnalisée, mais de se dire, est-ce qu'il y a une protection personnalisée ou est-ce qu'il y a une prévention, quelque chose qu'on peut faire pour éviter la maladie, mais bien en amont de sa déclaration, donc que c'est ce type de prudence que j'aimerais voir arriver.
Alors, pour intervenir, on peut dire que l'épigénétique, eh bien, c'est une discipline d'avenir et une discipline fondamentale pour notre connaissance et au-devant de notre descendance et de notre...
Voilà, de l'écologie, de la descendance de l'homme.
Je vous remercie beaucoup, on s'arrête juste au bon moment. Merci beaucoup à vous, Dr. S. Giacobino, et bonne continuation.
Merci.
www.libradio.org, la radio comme en famille. Deviens meilleur, rejoins la gang, il y siège des trésors.